Alors, je vous propose maintenant une période de questions. Je prendrai peut-être trois questions à la fois, parce qu'on est quand même nombreux. Et donc, je demanderai aux deux conférenciers de répondre, finalement, soit individuellement, soit en bloc, aux trois questions qui seront posées. Ça, je ferai le deuxième tour. C'est comme ça? Alors, donc, allons-y. Oui, monsieur.
Monsieur Renaud, en fait, vous avez mentionné que l'Argentine avait une taxe à l'exportation des produits et avait une taxe à l'importation. Mais dans le cas d'Angleterre, vous n'avez pas mentionné si la Révolution avait mené à un fait où il y avait des exportations ou des importations de produits agricoles en Angleterre. Et je mentionne ça parce que on est ici dans un pays où il y a forte exportation et il y a une balance positive en notre faveur au Canada. Et moi, il me semble qu'une révolution qui permet à un pays d'exporter puis de ramener de l'argent dans le pays, ça devient un facteur extrêmement important dans le système pour pérenniser un système révolutionnaire, si vous voulez, ou un système de révolution. Qu'en pensez-vous?
Je vais prendre encore d'autres questions. Oui.
J'ai peut-être trois petites questions bien interreliées à M. Rigaud. Tout d'abord, lorsque vous parliez des transformations en Argentine entre la deuxième révolution et la troisième révolution agricole, et le passage des propriétaires exploitants aux propriétaires non exploitants, est-ce qu'il y a eu un changement semblable, c'est-à-dire perte d'un certain nombre de ces propriétaires-là qui sont devenus, qui ont perdu leur terre ou qui sont devenus de la main-d'œuvre un peu comme ça s'est produit en Angleterre d'une fois à la première révolution agricole? Et interrelié à ça, la main-d'œuvre locale qui devient une main-d'œuvre employée des entreprises de travaux agricoles, est-ce qu'il y a des modifications importantes dans leurs conditions de vie ou leurs conditions de travail? Ce passage-là, où c'est sensiblement le même type de travail qui est fait. Et finalement, en Argentine toujours, est-ce que, ou ailleurs, est-ce que les méthodes alternatives de culture qui sont héritées des peuples autochtones, par exemple, comme l'agriculture sur brûlis, est quelque chose qui est en développement aussi, a un certain impact sur les transformations?
Merci. Une troisième question pour votre...
Oh, il y en a cinq.
Pardon,
allez-y. Il y en a cinq.
Moi, j'aurais voulu, madame, que vous me donniez votre avis par rapport à l'ouvrage de Gilles Serradini au niveau des impacts sanitaires des OGM.
Et, ça ne va pas être triste.
Bon, la controverse par rapport aux agences d'évaluation. Ça, et la vallée de la Dour, vous venez bien de la vallée de ça se situe
oui.
En Gers,
mmh.
Donc la vallée de la Dour, c'est quand même, me semble, une vallée qui est économiquement importante au niveau de la production de maïs et des grandes céréales. Et tout à côté, il y a eu un mouvement qui s'appelle l'ARGO, que vous devez sûrement connaître, qui a eu en 2005 un référendum contre les OGM. Et autour de ça, donc, il se diffuse toute une polémique autour de l'impact des OGM dans l'alimentation. Est-ce que vous pouvez donner quelques nouvelles là-dessus?
Bien, alors écoutez, je vais proposer peut-être que inverser les présentations, donc que vous êtes Catherine, vous pouvez répondre.
Oui, bon, alors vous avez donc évoqué la controverse très récente sur la publication d'un article. Alors comme vous le savez, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un chercheur de l'Université de Caen qui a donc publié un article dans... Food Chem and Toxicology, en montrant des rats qui avaient des tumeurs absolument énormes, en disant qu'ils avaient mangé du maïs NK603 et aussi il leur a fait boire aussi du Roundup Ready au biberon, hein, du Roundup au biberon. Alors par rapport à ça, bon, je reviens pas sur l'ensemble des arguments, mais il faut savoir que toutes les agences européennes et au niveau français aussi, que ce soit l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, que ce soit le Haut Conseil des biotechnologies, ont condamné la méthodologie et le protocole. Et donc, on dit que dans l'état actuel des choses, il n'y avait aucune raison de remettre en cause les évaluations des agences nationales qui avaient été faites récemment. hein, par rapport à ça. Disons que c'est une il y a quelqu'un qui a dit que un article de la lettre du Cotentin, du Cotentin, comme c'était un universitaire de Caen, hein, qui a traité Monsieur Serellini de bouffon. Voilà. Donc ce n'est même pas de la science. C'est un militant qui a décidé de faire des expérimentations et qui a choisi non seulement qu'il n'avait pas les effectifs indispensables et minimum pour faire ses conclusions, qui a pris des souches de rats qui sont utilisées pour faire des études sur 3 mois à peu près et qui est bien connu pour développer des tumeurs à partir de 6 mois. Et d'ailleurs, si on regarde ces lots témoins, on voit que ces témoins ont autant de tumeurs que les autres. Et même, on a étudié en long, en large et en travers. Alors moi, je fais partie du Haut Conseil des biotechnologies. Donc je suis partie prenante dans l'avis qui a été émis. Et bien sûr, je ne pourrais pas donc vous donner un autre point de vue. Donc nous avons étudié vraiment à fond. Et si vous voulez, je pourrais vous transmettre cet avis hein, qui est public. Donc je peux vous le transmettre sans problème. Et toutes les agences européennes, et que ce soit l'agence allemande, danoise, Pays-Bas, belge, etc., on est tous dans le même jugement. Par rapport aux agences d'évaluation, donc Éric Serralini remet en cause l'indépendance des experts. Je peux vous dire que nous avons nos CV qui sont publiés sur Internet, avec forcément la déclaration des prises d'intérêt ou des conflits d'intérêt s'il y avait. Donc c'est totalement public et je ne vois pas en quoi Gilles-Éric Serralini, qui lui touche de l'argent de la grande distribution qui fait des campagnes de produits étiquetés sans OGM, c'est un argument commercial, hein, des arguments commerciaux pour eux, il n'est pas plus en dehors des conflits d'intérêts que pourraient l'être certaines personnes qui travaillent pour des semenciers. Par rapport à l'étude 2005, enfin l'impact sur le non-OGM, de l'étude que vous avez dit, effectivement en France nous avons les gens sont persuadés que manger des OGM c'est toxique, donc c'est pour ça que j'ai tenu à vous montrer que les études ne montraient pas cette toxicité et si vous interrogez la plupart de des populations françaises, enfin des gens dans un village ou autre, eh bien ils vous diront qu'ils se méfient un peu de tout ce qui, alors qu'ils mangent à travers les importations américaines, notamment de soja transgénique, qui mangent des aliments issus d'organismes transgéniques depuis de nombreuses années. Mais bon, je dirais que c'est une bataille idéologique très vive que nous avons en France, qui concerne non seulement les OGM, mais qui concerne aussi les pesticides. Ah bien, c'est les gens pensent que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'environnement. Il y a une sacralisation de la nature et de sauvegarder donc une nature qui serait plus, je dirais, meilleure sans l'action de l'homme et plus accueillante sans l'action de l'homme. C'est une position philosophique.
Merci Catherine. Henri. Oui, alors, la question de Charles Vincent est particulièrement intéressante sur l'Angleterre. Je pourrais en parler pendant 3 heures, mais Christian ne serait pas d'accord. Parce que j'ai beaucoup travaillé justement sur ces questions-là, il y a fort longtemps, mais dans les années 70 et 80, ce qui ne nous rajeunit pas. Alors, l'Angleterre n'est pas devenue exportatrice avec la première révolution agricole. Mais s'il n'y avait pas eu la première révolution agricole, l'Angleterre aurait crevé de faim. Surtout s'il y avait eu un Napoléon un peu costaud pour faire un vrai blocus de l'Angleterre, ce qui ne s'est jamais produit. Mais l'Angleterre, depuis le XIIe siècle, avait une régulation de son marché des grains, donc plusieurs versions, qu'on appelle les Corn Laws, les lois sur les grains. Et grosso modo, tout le combat des classiques anglais, en particulier de David Ricardo et de la bourgeoisie industrielle anglaise, a été précisément de supprimer la protection du marché britannique de façon à ce que le blé, les blés étrangers puissent rentrer le moins cher possible, parce que la Grande-Bretagne n'a jamais été autosuffisante en blé. Mais il lui manquait grosso modo 5-6 semaines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous prenez le cas de l'Algérie, il lui manque 9 mois par an de blé. Donc c'était quand même une dépendance alimentaire qui n'était pas dramatique, mais enfin qui était constante. Et précisément, la révolution agricole en Angleterre, la généralisation de la révolution agricole en Angleterre, avec notamment l'amélioration des rendements, qui n'est pas considérable, mais surtout avec la diversification des productions, a permis à l'Angleterre de mieux à la fois de mieux se nourrir, et puis en même temps, en ouvrant les frontières au blé étranger, de peser à la baisse sur les prix d'alimentation, donc de peser à la baisse sur les salaires, et donc d'être compétitive pour ses exportations industrielles. Ça a été le grand choix de société de l'Angleterre. Mais il y a eu des débats au début du 19e siècle, en particulier en 1815, un grand débat au Parlement anglais. Et ce n'est que vers la fin des années 1840 que l'Angleterre sera complètement libre-échangiste. Donc c'est tout un... 1847, me dit Christian, qui est encore plus féru que moi de l'histoire des faits économiques. Alors, les questions sur l'Argentine. Alors, je pourrais mieux vous y répondre si le programme de recherche que je veux lancer se fait, le programme de recherche franco-argentin. Mais, parce que moi, je connais le terrain argentin du début des années 2000. J'ai fait des visites de terrain à cette époque. Depuis 2007, je crois que j'ai pas remis les pieds dans la Pampa. Ce que je peux vous dire, c'est que... Alors en effet, quand je parlais de propriétaire-exploitant, je faisais référence en fait aux gros propriétaires-exploitants dans les techniques de la deuxième révolution agricole. Donc, étaient déjà complètement marginalisés tous les petits propriétaires qui venaient précisément travailler comme ouvriers agricoles, donc en plus de leur propre exploitation, venaient travailler comme ouvriers agricoles sur ces exploitations, disons, de quelques centaines, quelques milliers d'hectares, des petites exploitations aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas la notion d'exploitation qui est importante aujourd'hui. C'est la notion d'air de mise en œuvre des nouveaux matériels, qui ne se fait pas sur une exploitation, qui tourne sur de très nombreuses exploitations. Et donc, moi, les exploitants que j'ai vus, les exploitants des années 90, du début des années 2000, qui sont largement dépassés par les événements de la troisième révolution agricole, eux, sont pas malheureux. Hein, ils perçoivent des rentes fort intéressantes, mais d'exploitants actifs, ils sont devenus des propriétaires fonciers passifs, qui sont soit dans les villages de la Pampa, soit carrément à Buenos Aires, et puis leur résidence secondaire, c'est l'ancienne ferme. Sur la main-d'œuvre locale, bon, je vous ai apporté un éclairage en vous disant que cette main-d'œuvre locale, elle-même, elle était, c'était des exploitants de microfundia. Et là, je ne peux pas vous apporter d'éléments supplémentaires, mais si ce n'est que aujourd'hui, la main-d'œuvre agricole, dans le cadre de la troisième révolution agricole, c'est largement une main-d'œuvre itinérante, qui descend du nord vers le sud pendant plusieurs mois. Donc évidemment, ce sont des conditions de vie totalement bouleversées pour la main-d'œuvre agricole. Sur les méthodes alternatives, j'ai pas d'éléments à vous apporter sur l'Argentine. J'en aurais peut-être plus sur le Chili avec l'agriculture mapuche, mais je suis pas vraiment un spécialiste de la question. Ouais.
Les taxes à l'exportation, je n'ai pas répondu.
Les taxes à l'exportation, les taxes à l'exportation. Je pense qu'elles sont toujours à 20% sur le soja, les céréales, sur le gros de l'appareil exportateur argentin. Ça a pas, que le monde agricole hurle, évidemment, parce que c'est ce qui ne va pas en rente foncière. Donc les propriétaires n'aiment pas. Mais Le prix est fixé, le prix à l'export est fixé par donc le prix international sur le marché mondial. Donc, lorsque l'État prélève 20%, ça a un double rôle. C'est qu'à la fois, ça remplit les caisses de l'État, mais en même temps, ça a le rôle de faire que le prix régulateur des marchandises agricoles, des produits agricoles sur le marché argentin, sont 20% inférieurs au cours mondial. Parce que c'est la même chose que de vendre à 80 sur le marché national ou de vendre à 100 sur le marché international. Et donc, ça a été utilisé à la fois, ces taxes à l'exportation, pour apporter des ressources à l'État et en même temps pour freiner la hausse des prix alimentaires. En général, on dit, dans les pays en développement, on dit la libéralisation agricole va vous permettre de baisser vos prix alimentaires. Oui, mais baisser vos prix alimentaires sur les biens que vous importez, sur lesquels vous ne percevez plus de taxes à l'importation dans le cadre de la libéralisation. Mais pour une puissance exportatrice comme l'Argentine, où les exploitants, les poules de siembra, etc., ont le choix, disons les négociants, ont le choix soit de vendre à l'extérieur, soit de vendre à l'intérieur, ben, quand le prix international monte, le prix intérieur monte. Et dans la mesure, et les Argentins, ils n'aiment pas beaucoup. Alors, en plus, il y a eu carrément des interdictions d'exportation de viande il y a 2-3 ans. Tout simplement parce que si à l'Argentin, vous lui enlevez son steak quotidien à un prix abordable, c'est la révolution. Donc, pour éviter la révolution, eh ben, on a interdit les exportations de viande. Donc, tout ça, c'est des dossiers passionnants, extrêmement complexes.
Il y a un effet de redistribution de richesse aussi.
Voilà.
Je voudrais ajouter que les taxes à l'exportation ne sont pas caractéristiques de l'Argentine. Il n'y a pas longtemps, les Russes ont mis une taxe à l'exportation sur le blé, et l'année dernière, les Indiens ont mis taxe à l'exportation sur le lait. Pas oublier que le premier producteur de lait au monde est l'Inde.
Très bien, donc on va, deuxième période de questions. Oh là, les mains se lèvent. Là, je vais d'abord prendre celles et ceux qui n'ont pas posé de questions. Donc, mesdames, allons-y. Je vais en prendre quatre cette fois-ci. Attendez.
Ben, on parle de révolution agricole. J'avais juste une question parce qu'il y a comme l'avènement d'un mouvement. On parle à la troisième révolution agricole comme peut-être plus l'avènement des biotechnologies. Ouais. Mais en fait, il y a aussi un autre mouvement peut-être plus alternatif, encore une fois, mais de l'agriculture soutenue par la communauté, l'agriculture à petite échelle qui intègre les principes de la permaculture. Est-ce qu'on pourrait considérer que tout ça dans la troisième révolution ou comme une quatrième révolution? On n'est pas une. Tout le monde peut répondre, c'est plus général.
Merci. Oui, j'allais vous demander à qui vous posez la question, mais en effet.
Je serai à parole aux deux.
Oui, en fait, ma question s'adresse à madame. Dans votre présentation, vous avez dit que les données recueillies par Monsanto par rapport au maïs BT ne faisaient pas apparaître aucun problème de santé, mais que la méthodologie expérimentale et que les statistiques pouvaient être améliorées. Parallèlement avec l'étude de Séralini, c'est un peu aussi ce qu'on lui reproche par rapport à sa méthodologie. Par contre, l'étude publiée par Monsanto n'est pas nécessairement disponible pour la communauté scientifique. On ne peut pas nécessairement consulter ce genre d'études-là parce qu'ils ne sont pas publics. Donc, je me demandais un peu c'était quoi votre avis par rapport à la transparence de ces études de toxicité-là qui sont effectuées par les compagnies. Et aussi, je me demandais ce que vous pensiez de la notion d'acceptabilité sociale par rapport à l'évaluation des risques psychologiques.
Merci. Alors, une dernière question. Gardez vos questions en réserve, je ferai un dernier tour après. Oui, monsieur.
Bonjour. La question pour madame Regnault. Après, je me demandais, j'ai vu vos chiffres de diminution de l'usage des pesticides en Europe. Et nous, à l'intérieur, dans le cadre d'un cours de lutte biologique, il y a 2 ans, on avait un des responsables de stratégie phytosanitaire du Québec qui nous a présenté les chiffres pour le Québec sur l'utilisation des pesticides. Et on a parlé des chiffres, des résultats, on les a regardés, on en a débattu, et on était absolument incapable de savoir la tendance qu'il y avait pour différentes raisons, tout simplement parce qu'à l'intérieur des chiffres officiels qu'on avait, par exemple, les semences enrobées de pesticides ne rentraient pas dans les chiffres. Autre chose qu'il y avait, par exemple, c'est que les matières actives, effectivement, diminuaient en termes de kilogrammes utilisés par hectare. Par contre, la toxicité des matières actives augmentait en même temps. Donc, il était très difficile de se faire une idée si oui ou non on allait dans la bonne direction. Alors, je me demandais si vos chiffres à vous étaient vraiment très clairs. Ça semble être clair chez vous. Chez nous, ça ne l'était pas du tout. On ne pouvait pas sortir en se disant « Ah, oh, on est en progression ».
Bien, merci. Alors, donc, allons-y. Catherine et Henri, après. Okay.
Bon, alors, la première, oui, alors je vais laisser Henri répondre sur votre question. Donc, si j'ai bien compris, c'est un type d'agriculture biologique, c'est ça, ou plus à petite échelle. Oui, alors là, je pense que nous n'avons pas, enfin, globalement, c'est une agriculture qui se... Alors, nous avons un mouvement qui se développe en Europe, une agriculture d'ailleurs qui est même supportée par les pouvoirs publics dans la mesure où on demande le développement de l'agriculture biologique à travers la fameuse directive, la 2009-128, dont je vous ai parlé, donc au niveau européen et en France aussi, puisque, par exemple, on va décider que les cantines scolaires doivent manger 20% d'aliments bio, par exemple, hein. Donc, on a ce mouvement. Alors, ceci dit, je vais vous renvoyer à un petit bouquin qui est sorti très récemment de l'Académie d'agriculture qui s'appelle « Le tout bio est-il possible ?» pour montrer justement à la fois l'intérêt et à la fois aussi les limites de ce type d'agriculture. L'intérêt, c'est que c'est effectivement une agriculture qui est un laboratoire d'idées pour essayer de promouvoir une agriculture qui pense autrement et qui n'est pas dans une logique très productive, forcément. Mais ses limites, c'est est-ce qu'on arrivera à nourrir 9 milliards d'habitants avec ce type d'agriculture ? Quels sont aussi les contrôles ? Car c'est un gros problème, c'est que cette agriculture biologique n'est pas contrôlée de la même façon que les produits de l'agriculture conventionnelle, notamment sur les normes bactériologiques, les normes en mycotoxines, etc. Et donc il y a peut-être aussi un effort de réflexion à faire. Actuellement, je pense qu'on est en train de réfléchir pour savoir si... on l'a dit, Henri Regnault l'a dit, l'agriculture, la troisième révolution à base de biotechnologie n'est pas encore complète. Est-ce qu'on va se venir vers un schéma, une agriculture qui aura à la fois une partie d'agriculture biologique, une partie d'agriculture conventionnelle, de production intégrée, de lutte raisonnée, de biotechnologie ? Quelle est la place qui sera faite aux différentes agricultures en fonction des différents contextes socioculturels dans les différents pays, et puis aussi de la réalité. Hein. Vous avez des grandes exploitations que nous, on n'a pas forcément en Europe, où il y a plus de polyculture dans certaines régions très spécifiques, et puis on a plus de grandes plaines à côté de la région parisienne, où là, on va avoir des monocultures. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas répondu sur le maïs tout à l'heure, qui était effectivement la monoculture du maïs. Enfin, c'est un des facteurs très importants dans l'agriculture du Sud-Ouest, avec aussi, ne l'oublions pas, la vigne et puis un peu de maraîchage aussi dans le Lot-et-Garonne. Donc, je laisserai Henri répondre.
Alors, en dehors de ça.
En dehors, voilà. Et par rapport aux plantes indigènes et l'agriculture, la transgénèse, les techniques, il faut bien voir que les plantes dites génétiquement modifiées, c'est juste une technique qui est employée, qui est la transgénèse. Hein, vous êtes tous ceux qui sont en biologie savent que, eh bien, on va transmettre ou par une bactérie ou par un canon à biologistique, on va transmettre des gènes qui vont intégrer plus ou moins rapidement dans un organisme. Qu'on a plein d'autres méthodes actuellement qui sont étudiées de modification génétique, la mutagénèse, on a d'autres techniques, et qui ne sont pas concernées par la réglementation. Et moi, j'ai posé la question récemment en disant, mais pourquoi on a focalisé sur la transgénèse à l'époque de 1980, quand on a mis au point les premières données réglementaires et les premières lois. Et on m'a dit, c'est parce que c'était la technique la plus récente. La mutagénèse, on l'utilise depuis 1920 avec des améliorations qui sont faites au niveau technique, mais c'est une technique qui est déjà bien connue. Les autres, c'était aussi utilisé de façon traditionnelle. Les dernières n'existaient pas. Donc, on s'est focalisé sur la transgénèse à ce moment-là. Donc, c'est pas le seul moyen de modifier. Mais quand on fait de la modification génétique, on raccourcit le temps par rapport à une sélection traditionnelle, par exemple une sélection agronomique de caractère génétique qui va prendre plus de temps. En faisant de la transgénèse, on va gagner un petit peu de temps. Mais il y a d'autres techniques aussi qui sont utilisées, qui vont faire aussi gagner du temps et qui vont être mises en œuvre prochainement. Donc c'est vrai que c'est pas uniquement le seul moyen de transformer génétiquement et d'augmenter les résistances des plantes. Vous avez raison, il y a d'autres moyens. Par rapport aux questions sur la santé, donc alors je me souviens plus très bien la question qui m'avait été posée, c'est vous.
En fait, c'était par rapport à un parallèle entre la transparence, oui, par exemple, de l'étude de Seralini versus la transparence.
Alors, Seralini n'a pas communiqué ses données. On lui a demandé et il a dit « Je ne vous communique pas mes données expérimentales parce que moi-même, je ne peux pas avoir les données de Monsanto sur le NK603. » Conclusion, l'EFSA, l'Agence de sécurité européenne, lui a transmis toutes les données. Et donc, on attend toujours celle de Seralini, qu'il n'a toujours pas communiqué. Donc, le problème de la transparence, vous m'aviez posé une autre question en disant « Mais ce n'est pas les mêmes échantillons. Est-ce que Monsanto, c'est des échantillons qui sont plus réduits ?» Il y a des études à la fois de toxicologie, d'écotoxicologie dans les dossiers qui sont présentés aux experts. Et je peux vous assurer qu'effectivement, donc là, ce qui avait été dit, c'était sur le rapport de surveillance, hein. Ce n'est pas sur les données de demande d'autorisation, de commercialisation de l'événement transgénique. Donc, si ça a été autorisé, c'est que l'expertise a montré que les données étaient suffisantes pour montrer qu'il n'y avait pas de problème de toxicologie ou d'écotoxicologie avéré. Sinon, je peux vous assurer, puisque je fais partie d'un de ces comités d'experts, qu'on renvoie le dossier au pétitionnaire en lui disant « Là, il faut que vous fassiez une étude à 90 jours sur les rats. Votre étude, elle n'est pas suffisante, elle ne montre rien. » Ça, c'est une... Je dirais que c'est une condition sine qua non. Par rapport à l'acceptabilité sociale, on en a parlé. C'est vrai que je pense qu'ici, en Amérique du Nord, il y a moins de questions sur... Quand vous vous posez moins de questions sur les plantes génétiquement modifiées, qu'elles sont mieux acceptées socialement qu'elles ne le sont en Europe.
Mais en fait, c'est plus par rapport à... Parce que vous avez montré qu'il y avait un grand mouvement de protestation en France anti-OGM, puis que dans le fond... Dans les faits, il n'y a pas de culture OGM en France. Donc, il y a un certain apport, si on veut, de l'acceptabilité sociale dans les politiques d'acceptation d'un risque.
C'est pas du risque, c'est une décision politique, carrément, parce que je peux vous assurer que dès qu'on a produit donc au Conseil des biotechnologies notre avis sur le MON 810, qu'on avait mis en 2009, qu'on a mis en 2010, à chaque fois... Le ministre de l'Agriculture a décidé, un autre rapport qui ne concernait pas justement cette agence d'expertise, a décidé d'avancer des arguments disant « on a d'autres arguments scientifiques à faire valoir, etc. » Et à chaque fois, l'examen de ces arguments scientifiques sont retoqués à Bruxelles. Et ce qui fait que, et même le Conseil d'État a refusé. Donc, il y a actuellement une bataille de ping-pong pour savoir quand est-ce qu'on aura, et si un jour le MON 810 sera réautorisé, puisqu'il était autorisé jusqu'en 2006 en culture en France. C'est une décision, effectivement, purement politique qui existe. Et sur l'acceptabilité sociale, comme je vous ai dit, une étude comme Seralini fait que maintenant, que tous les avis ont lieu, là on commence à avoir des articles de presse dissonants disant que si tout le monde remet en cause la fiabilité de cette étude, et surtout que ça a été assorti en disant on va recommencer l'étude dans un cadre public, contrôlé, etc., hein, donc pour faire taire un petit peu les craintes de la population, Mais jusqu'à présent, là, quand il y a eu cette campagne de presse, tous les gens étaient persuadés qu'ils allaient manger n'importe quoi, et que c'était mal contrôlé au niveau des pouvoirs publics. Or, les pouvoirs publics, avec tous les scandales qui ont lieu, que ce soit le sang contaminé, le médiateur et tout, actuellement, préfèrent ouvrir les parapluies. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Et j'ai oublié quelque chose sur la lutte biologique. Oui.
Par rapport aux chiffres.
Ma
question, c'est est-ce que son budget, ça progresse? Puis, je vous avais l'air d'avoir une avance assez considérable sur le budget ici. Je veux juste savoir
si... Non, là, c'est par rapport au volume de vente que je vous ai... Parce qu'il y a une... Je suis en train de discuter actuellement avec un certain nombre de spécialistes canadiens du niveau fédéral, que ce soit l'ARLA, Santé Canada, le MAPAC, parce que je vais aller à Québec dans 2 jours. C'est vrai que les mouvements sont pas... Je dirais que nous avons un peu plus de données statistiques que vous n'en avez actuellement, parce que le mouvement est plus récent au Québec. Par rapport à ça, moi je vous ai donné quelques chiffres sur les insecticides ou sur les volumes de vente de la profession. C'est vrai qu'on n'a pas, il faut regarder sur l'enrobage des semences, donc ça reflétait pas sur l'utilisation, mais sur si le produit phytosanitaire est vendu pour faire de l'enrobage de semences, son volume de vente est compris dedans, d'accord ? Voilà. Et ces chiffres-là sont, je pourrais vous donner, il y a un site internet de l'Union des industries de la protection des plantes, qui est le site officiel.
Mais les unités du volume de vente, c'est-tu des euros ou des kilos? C'est ça que je ne comprends pas. Dans l'exemple qu'on discute, on parle de quoi? 2 euros?
Il faut que je regarde ma
Okay. Parce que...
Non, c'est pas. Je pense que c'est en volume de vente, c'est-à-dire en kilos.
En kilos, ok.
Ouais. Oui, parce que l'euro, ça a des fluctuations de prix.
Attendez. Henri ?
Non, j'ai rien d'intelligent à dire, donc je passe mon tour de parole.
Ça me surprend.
Ça te surprend, bah oui, si tu veux.
Bon, écoutez, on va revenir pour un dernier tour. Simplement pour mentionner que l'ouvrage que pilotent nos deux collègues, entre autres, sur trois d'ailleurs, est en vente à la Coop. Donc, ils ont reçu quelques copies, et puis apparemment, on peut les commander rapidement. Donc, celles et ceux qui désirent se procurer rapidement l'ouvrage, vous l'avez en vente à la Coop. Alors, allons-y pour un dernier tour, deux pistes. Je prendrai toutes les questions cette fois-ci, et je laisserai à mes collègues soit de finir. Je commencerai par toi.
Très bien. C'est très bien, oui. Parce que j'ai noté du favoritisme dans les tours précédents.
Allez-y.
Ma question s'adresse à M. Rignon. Simplement, quel est l'impact sur le travail de cette troisième révolution agricole? C'était très intéressant, votre petit schéma qui montrait comment est-ce qu'on avait une reconfiguration, en fait, du schéma productif. Et on imagine qu'il y a aussi une nouvelle répartition, des rentes, mais salaire, etc. Au-delà de l'impact, mettons, sur les travailleurs qui doivent se déplacer, est-ce que maintenant les travailleurs agricoles qui sont devenus des espèces de sous-traitants de ces groupes financiers qui gèrent l'agriculture, est-ce qu'ils ont plus ou moins de pouvoir au niveau des relations de travail? Comment est-ce que la division de la richesse produite va changer avec le nouveau modèle?
Merci. Madame?
Oui, c'est une question pour Madame Bertino. J'aimerais avoir votre avis en tant que biologiste sur la question de la contamination génétique. Je pense que c'est le point que Madame voulait donner et que vous n'avez pas vraiment répondu à la question parce que ce que vous avez présenté, puisque les compagnies de biotech et aussi certains États présents en ce moment, c'est la possibilité de faire coexister les cultures OGM et les cultures d'OGM. Pour certaines cultures comme le maïs, particulièrement, où la pollinisation fait que la contamination est inévitable. Alors, dans ce contexte-là, je pense que c'est ça qui est dangereux, c'est la perte de la biodiversité puis des espèces locales ancestrales qui ont été développées, puis surtout, en tout cas au Mexique, quand on parle d'un centre d'origine du maïs. Alors, vous avez, je ne sais pas combien d'années d'espèces de maïs qui sont en maintenant. Et puis, ces espèces-là qui sont les plus adaptées aux conditions agroclimatiques locales et qui permettent d'être productives sans utiliser de pesticides. Alors, je pense que...
Merci. Oui, madame.
Moi, j'avais une question sur l'espèce de comptabilité générale, justement, soit en volume de vente, que ce soit en kilo ou autrement, mais on parle de produits toxiques, puis on parle de toxicité très différente selon les produits. On parle de néonicotinoïdes avec 10 grammes, on peut traiter un hectare. Et ça se fait souvent ici à l'insu des agriculteurs. Ils sèment des semences enrobées sans savoir l'impact sur l'entomofaune. C'est quand même assez superficiel, selon moi, comme méthode d'analyse. Donc, ça demande d'être relativisé parce que madame parle de biodiversité. C'est vraiment des risques énormes au niveau de la perte d'un patrimoine d'agro-biodiversité qui dépend des traditions de sélection et tout. Alors, moi, je questionne beaucoup un portrait si rapide dans ce que ça peut offrir et je fais appel à ce moment-là à l'analyse critique justement de quelqu'un qui a une formation en pharmacologie alors que c'est de plus en plus remis en cause que la dose fait le poison et surtout en termes d'environnement.
Merci. Madame? Merci.
Juste une petite question, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous avez dit, je pense, dans votre présentation, Mme Regnault, qu'il y avait un consortium de compagnies privées qui produisent des OGM qui sont chargées de la surveillance des effets non intentionnels. Si c'est le cas, j'aimerais savoir comment est-ce que c'est possible qu'on confie la surveillance des effets non intentionnels aux gens qui les produisent, parce que j'ai comme l'impression qu'on n'a pas trouvé grand-chose.
Pas fort intérêt, oui. C'est vrai.
Merci. Par ici, y a-t-il d'autres questions? Bien, écoutez, ça en fait beaucoup. Henri, tu commences.
Passe-moi le bouquin, s'il te plaît.
Non?
Oui, non, oui, passe-moi le bouquin.
Bon, alors Henri, tu commences. Ensuite, Catherine, qui a encore un bon lot de questions.
Bon, ben, moi, j'ai qu'une question sur l'impact sur le travail. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est... D'abord d'acheter le livre, mais sinon c'est pas grave, hein, vous pouvez vous l'emprunter, voyez. Mais surtout de lire, parce que j'aurais souhaité que Xavier Arnaud de Sartre puisse participer à ce séminaire, et je lui ai dit, écoute, Catherine et moi on fait un séminaire à Montréal, etc., il faudrait que tu viennes, tu te payes ton billet d'avion et tu viens. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on l'a invité, en lui payant le billet d'avion, à parler à La Paz en Bolivie, et je ne sais pas pourquoi il a choisi La Paz plutôt que Montréal. Et c'est lui le géographe, et qui... Alors, il a fait un chapitre du bouquin qui s'appelle « Une révolution agricole incomplète » avec un point d'interrogation, « Leçon d'Argentine ». Et lui, il travaille sur le terrain plusieurs mois par an, dans les campagnes argentines, et il pourrait vous répondre d'une manière beaucoup plus documentée que je peux le faire sur l'impact sur le travail. Moi, j'en sais suffisamment, notamment à partir de son chapitre, pour avoir fait le schéma que j'ai fait. Ce que je sais, c'est que il y a beaucoup de désœuvrement, justement, dans les villages et d'exode rural, parce que la pampa, en quelque sorte, avec ces mouvements, est en train de se dépeupler. Hein. Ou en tout cas, on est dans une phase qui précède le dépeuplement, parce qu'il n'y a plus de boulot sur place, il y a moins de boulot sur place. Les peones traditionnelles sont désœuvrées. Alors c'est vrai qu'il y a un fort impact, je ne peux pas vous le décrire en détail, mais si je reviens dans 3 ou 4 ans, après le programme de recherche que je voudrais lancer, là je pourrais vous parler d'une manière beaucoup plus documentée.
C'est tout.
C'est tout.
Catherine ?
Ok, alors moi j'ai plein de questions, donc je vais essayer de serrer. Bon, il y a un problème dit de contamination, où moi je parlerai plutôt de la coexistence entre les filières, la culture des OGM et de non-OGM, et notamment donc c'était posé à travers la culture du maïs. Alors déjà, il y a un certain nombre de solutions qui peuvent être apportées, qui est de ne pas faire coexister des champs. Vous savez que le pollen de maïs se déplace pas non plus sur des kilomètres et des kilomètres. Donc on peut déjà organiser au niveau spatial la culture du maïs OGM ou du maïs non-OGM. Mais c'est une question de fond qui se pose, et à tous ceux qui sont intéressés, nous avons au Conseil des biotechnologies donc fait paraître un rapport. Donc si certains veulent me donner leur mail, eh bien à ce moment-là je leur enverrai les références de ce rapport qui a étudié le problème de la coexistence entre les cultures OGM et les cultures non-OGM, pour à la fois le maïs, les pommes de terre, je crois qu'il y avait le soja, et il y avait aussi une autre culture, peut-être la betterave. Donc il y a, c'est effectivement, c'est une réflexion à avoir sur est-ce qu'il ne faudra pas organiser des zonages. Alors l'agriculteur moyen va dire, ah ben, attendez, moi je suis propriétaire, c'est à moi de décider quelle culture je veux avoir dans mon champ, en fonction notamment des subventions qui sont données par la Commission européenne. Peut-être qu'on sera amené à réfléchir là-dessus, sur ce zonage, de façon à ce qu'il puisse y avoir ce type de culture OGM et puis les cultures, donc les cultures non-OGM qui se passent dans certaines régions. Je peux vous faire remarquer que déjà cette organisation de l'agriculture existe quand on produit du maïs semence ou quand on va produire un maïs plus commercialisé pour l'alimentation. Il y a déjà des réglementations et des normes de répartition dans l'espace, de façon à ce que le maïs semence ne soit pas le fonds génétique du maïs commercial n'allait pas dans le maïs semence. Donc déjà, ce sont des règles qui existent, mais il faudra effectivement avoir cette réflexion d'organisation de l'espace, je pense, pour la coexistence de ce type d'agriculture. Par rapport à la biodiversité, je pourrais faire remarquer que des études, notamment en Chine, ont montré que dans les champs de plantes génétiquement modifiées, donc c'est au niveau du coton en particulier, eh bien on a beaucoup plus de biodiversité que dans les champs du coton conventionnel. Tout simplement pourquoi ? Bah parce qu'on applique moins d'insecticides, notamment. Et donc à partir de là, il y a cette biodiversité qui réapparaît. Henri a parlé aussi du fait que de pratiquer le semi-direct, eh bien fait qu'on remue moins le sol. Et on sait très bien que l'impact de la biodiversité au niveau des micro-organismes du sol est supérieur dans les semis directs par rapport justement au labour. Mais il y a d'autres inconvénients par ailleurs. Ma position, c'est de dire il faut regarder les choses pragmatiquement au cas par cas en fonction du contexte climatique, du contexte pédologique, de l'organisation effectivement sociale qui existe aussi et qui est acceptable. Donc je n'ai pas particulièrement prêché pour les monocultures. J'ai dit que les monocultures engendraient un type d'agriculture dans lequel effectivement on va, parce que les insectes vont pouvoir ou les maladies vont pouvoir se répandre puisqu'on est en monoculture, et si on est en monoculture répétée sans alternative, sans rotation, etc., il faudra une protection de la culture. Mais c'est vrai qu'on est réfléchi actuellement beaucoup sur dans les méthodes alternatives. Il y a tout un mouvement qui s'appelle, alors il y a bien sûr l'utilisation de produits de biocontrôle à base de macro-organismes, de micro-organismes, ou bien de l'utilisation de phéromones ou d'extraits végétaux, mais on a aussi tout un mouvement qu'on appelle l'agroécologie qui vise à redécouvrir un certain nombre de pratiques agronomiques, en particulier la rotation. Et là, on a une étude très récente en France qui a été faite sur blé, qui a été publiée dans la région de Nancy et qui a montré qu'on pouvait, c'est une étude qui dure depuis 12 ans, qu'on pouvait se passer totalement d'herbicides pour la culture du blé. Donc ça pouvait être très intéressant, sauf que en termes de, quand on regarde le bilan sur de production sur cette période très longue, on s'aperçut qu'on a produit 3 fois moins de blé et 4 fois plus de luzerne. Donc qu'est-ce qu'on fait de la luzerne ? Hein ? Est-ce que les gens mangent de la luzerne comme ils mangent du blé ? Donc ça montre aussi que cette réflexion économique est aussi à prendre en compte dans cette affaire. Et puis par rapport aux néonicotinoïdes, oui, effectivement, les matières actives actuellement sont beaucoup plus actives à des quantités beaucoup moindres, hein, ça c'est sûr. Et donc ça peut rentrer effectivement et impacter le facteur de volume de vente tel que je l'avais indiqué. Hein. C'est clair que maintenant on a on a besoin de volume moins grand pour avoir une meilleure couverture dans la protection des cultures.
Et l'autre détail, c'était la sécurité environnementale liée de façon directe avec le volume de pesticides utilisés. C'est dangereux comme conclusion parce qu'il ne faut pas laisser entendre que moins de produits égale moins toxique, parce qu'en plus, on parle à ce moment-ci d'un produit qui est non sélectif, donc qui attaque tous les bons insectes. Puis quand on parlait de biodiversité, on parle aussi des traitements qui sont non sélectifs, donc qui détruisent la biodiversité. On parle de destruction d'agrobiodiversité parce qu'il y avait des variétés qui étaient intéressantes et dont les gens ne peuvent plus s'approvisionner, ceux qui veulent en produire. Donc il y a vraiment une espèce de monopolisation à laquelle on assiste ici, dans notre agriculture au Canada, qui est particulièrement, c'est vraiment de l'homogénéisation, même en sur semis direct, c'est pas vrai qu'il y a autant de biodiversité au niveau des mauvaises herbes. Mais c'est certain que si on compare avec la version antérieure qui était une succession d'herbicides, peut-être qu'il y a d'autres dangers. Mais je pense qu'il faut dissocier l'effet toxique pour l'humain, la santé. Il faut tenir un discours précis, puis un discours sur la santé environnementale. Puis au niveau économique, là, il y a toutes sortes d'autres. D'autres aspects. Donc, au niveau des équilibres, on est loin d'un portrait facile à faire avec des données aussi macroscopiques, je pense.
Au niveau des herbicides, je peux signaler quand même que, effectivement, je l'ai dit, hein, nous, on a observé que quand on diminue les herbicides, actuellement, c'est des études assez récentes, eh bien, justement, il y avait un certain nombre d'adventices qui posaient des problèmes de santé publique, comme l'ambroisie qui donne des allergies et qui sont particulièrement, donc qui poussent et qui sont devenus maintenant, qu'on n'arrive plus à gérer. On a eu récemment des galettes de sarrasin bio, ça est paru il y a 10 jours, qui ont été contaminées par du datura, qui a été fauché et qui était résistant et qui poussait aussi. Donc il ne faut pas non plus vouloir éliminer totalement tous les herbicides. Je pense que ça peut être un apport important. Maintenant,
une augmentation des herbicides systématiques, l'usage d'OGM qui permet...
Le gros problème, c'est le succès du glyphosate qui génère des résistances actuellement, je pense. Et ça c'est un problème parce qu'on est passé d'un herbicide effectivement total qui était très performant et puis maintenant il est un peu moins performant. Donc là il va falloir le gérer avec notamment des herbicides sélectifs. Les herbicides sélectifs sont en général ont plus d'effets non intentionnels que les herbicides totaux qui ont été utilisés. Mais c'est vrai que l'utilisation systématique du glyphosate pose des problèmes aussi. Donc c'est important de montrer, de voir qu'il faut varier effectivement, revoir un peu le schéma agricole et le schéma technique aussi, des itinéraires techniques au sein des cultures. Ça, je suis tout à fait d'accord, qu'on ne peut pas faire du systématique et qu'il faut réfléchir avant de le faire.
Et ce à quoi on assiste dans le cas d'herbicides très universels, comme le glyphosate, c'est qu'il y a aussi une possibilité.
Oui, mais ça, c'est un agriculteur, hein, doit être un professionnel, hein, comme partout. Hein, voilà. Bon, par rapport, puis par rapport aux autres substances, les néonicotinoïdes, il y a actuellement des plans de surveillance des effets non intentionnels. Hein. Et nous, en France, donc là, je ne sais pas exactement où on en est ici, mais j'ai bien l'impression que ça a lieu aussi, mais qui est de vérifier, justement, c'est le comité de surveillance biologique du territoire, qui a mis en pratique, alors récemment, hein, 2 ans, d'accord, mais enfin, c'est mieux que rien, de voir quels sont les effets non intentionnels des pratiques agricoles. Toutes les pratiques agricoles. Alors, actuellement, on pense aux pesticides chimiques. Moi, je voudrais bien qu'on parle des pesticides aussi, des biopesticides, parce que, par exemple, répandre comme biopesticide de la coccinelle chinoise comme pour limiter les pucerons, alors que c'est une espèce devenue invasive qui donne aussi beaucoup d'allergies, là aussi, il faut revoir un peu le cahier des charges.
Et qui nous bouffe nos coccinelles européennes.
Et qui lutte contre la biodiversité.
Il y avait la question, oui, c'est la dernière question, là, Catherine.
En fait, c'était l'histoire un peu du fait qu'on confie...
Oui. Oui. C'était le recto, excusez-moi, j'avais mis ce verso. Oui, alors c'est vrai, c'est un consortium qui est lié à un certain nombre de sociétés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la surveillance post-commercialisation des PGM, actuellement, est à charge uniquement des pétitionnaires. C'est dans leur cahier des charges, actuellement, de par la directive machin de... Voilà. Mais il y a toute une réflexion sur la biosurveillance des territoires en Europe qui se fait et qui est parrainée notamment par l'EFSA, l'Agence de sécurité alimentaire. Nous avons, nous, en France, un comité de surveillance biologique du territoire aussi, qui est chargé de faire cette surveillance. Je viens d'en parler. Et c'est une action qui est en train de se monter et qui va... Ce que je voudrais, c'est qu'elle se juxtapose, qu'elle prenne en compte les efforts qui sont faits par les pétitionnaires. Mais par exemple, toutes les études qui ont été faites par les pétitionnaires pour établir des lignes de base, ça leur a été demandé dans le cahier des charges. Donc ça alourdit énormément l'exploitation de la plante génétiquement modifiée en Europe. Et ensuite, c'est contrôlé par des agences étatiques.
Et les données sont prises par les gens du consortium, les données.
Pas uniquement, parce que par exemple, pour établir les données de base de la surveillance spécifique dont je vous ai parlé, sur la pyrale du maïs, là, le MON 810, ceux qui ont fourni les insectes, etc., c'était notamment le Service national de protection des végétaux en France. Vous comprenez bien, quelqu'un comme Monsanto qui est sur la sellette, maintenant, ce qu'il a pris comme habitude, c'est de déléguer à des organismes indépendants les études qui sont faites, de façon à pouvoir justement montrer que c'est pas sa responsabilité. Il y a des fondations aussi qui sont créées par ces groupes-là. En Espagne, il y a une fondation qui a été créée et qui est chargée de piloter ces surveillances. Cette fondation est bien sûr financée par ces groupes privés, mais il y a un droit de regard du public aussi.
Vous avez confiance dans le système?
Moi, je pense qu'avec les différentes...
On a le même genre de choses ici. Hein. Au niveau de l'homologation des pesticides, etc., il y a souvent des conflits d'intérêts dans la mesure où on demande aux compagnies qui vont proposer un produit de sélectionner, de payer une autre compagnie pour évaluer justement les effets pervers de ces produits-là. C'est pas toujours très...
Non. Je voudrais ajouter quelque chose, une dimension qui vous échappe. Peut-être le grand juge de paix. Ce ne sont pas les organismes internationaux, ce sont les bourses. Au moindre incident grave prouvé, le cours de Monsanto s'effondre à Wall Street. C'est tout.
Oui, on n'a pas encore fait la démonstration que les bourses sont efficaces. Mon collègue Henri va être d'accord avec vous.
Attendez, professeur, oui. C'est une sanction,
oui,
qui,
oui,
est vraiment la véritable couperet. On discute une fois, le cours s'effondre en 24 ou 40. 48 heures.
Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a eu un excellent débat, 2 excellentes présentations. Encore merci, chers collègues et amis.
Bon. Oui, je n'ai pas.
Tu ne l'avais pas affiché, oui, moi.
Ah non, je ne l'ai pas affiché. Non, je n'ai pas affiché. Je vais vous le donner.
Je me...
j'ai malheureusement pas remis mon verre. Je vais vous donner.
Attends, ça a été un plaisir d'écouter les Catherine, la première fois que je l'écoutais.
Ah bah oui.
Écoute, Attends, vous l'avez dit.
Non, mais attends. Elle a
Mais quand c'est bon. Oui. Non, mais moi, j'ai... Merci, monsieur.